Radio Prague, les informations.
Bonjour. Pour le CSSD, le refus du président de nommer un nouveau ministre de la Culture pourrait provoquer une crise constitutionnelle. Les premiers ministres du V4 réunis à Prague avant le sommet européen. Et puis 21 tonnes de volailles contaminées à la salmonelle ont été importées en Tchéquie le mois dernier. Le Parti social-démocrate, le CSSD, a brandi jeudi la menace d'une plainte en compétence contre le président tchèque si celui-ci continue à s'obstiner à ne pas signer la proposition de remaniement ministériel. Suite au limogeage au printemps dernier du directeur de la Galerie nationale de Prague et la vague de protestations qui s'en était suivie, le ministre de la Culture Antonín Staněk s'était retrouvé sur la sellette. Le président Zeman avait une première fois refusé sa démission. Finalement, le premier ministre Andrej Babiš avait proposé son remplacement. Depuis, le président Zeman n'a toujours pas approuvé formellement ce remaniement. Jeudi, le chef de file des sociaux-démocrates Jan Hamáček, également ministre de l'Intérieur, a estimé que le pays était au bord de la crise constitutionnelle. Le Parti social-démocrate souhaite que toute l'affaire soit réglée d'ici fin juin. Miloš Zeman a refusé l'ultimatum du CSSD. Ce vendredi, les premiers ministres du groupe de Visegrád, soit la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, sont réunis à Prague avant le sommet européen du 30 juin et 1er juillet, qui doit rassembler les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire a été réuni faute d'accord jusqu'à présent sur un candidat à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Selon Andrej Babiš, cette nouvelle réunion devrait décider définitivement du nouveau casting ainsi que des nouvelles figures à la tête du Conseil européen de la Banque Centrale Européenne. Cette semaine, le Premier ministre tchèque a estimé qu'il était important qu'aucun Spitzenkandidat n'obtienne la majorité pour la présidence de la Commission Européenne. D'après lui, certains d'entre eux n'ont guère d'affinité avec la région du groupe de Visegrád. Au cours du mois écoulé, les services vétérinaires tchèques ont découvert 14 cas de viande de volaille importée de Pologne en Tchéquie et contaminée à la salmonelle. Cette viande représentait l'équivalent de 21 tonnes en tout, a fait savoir le porte-parole des services vétérinaires. Dans deux cas, il s'agissait toutefois de viande produite en République tchèque. Au début de l'année déjà, de la viande de bœuf polonaise contaminée ou avariée avait été exportée dans 11 pays européens, y compris la République tchèque. Les autorités tchèques avaient imposé des contrôles généralisé de toutes les importations de bœuf en provenance de la Pologne voisine. Ces contrôles obligatoires avaient été levés en mars, les autorités polonaises ayant donné leur assurance qu'aucune viande défectueuse ne se retrouverait dans les circuits de consommation. La République tchèque prévoit de fermer temporairement son ambassade à Tripoli pour des raisons de sécurité. Une annonce faite par le vice-ministre des Affaires étrangères Martin Tlapa lors d'une rencontre des diplomates économiques. Toutes les relations diplomatiques seront prises en charge par l'ambassade tchèque de Tunis, a-t-il encore précisé. Selon lui, l'ambassade de Tripoli rouvrira ses portes une fois que des conditions de sécurité optimales seront assurées. L'actuel représentant permanent de la République tchèque auprès de l'OTAN, Jiří Šedivý, va être remplacé par le vice-ministre de la Défense, Jakub Landovský, ancien chef d'état-major de l'armée tchèque. Jiří Šedivý était en poste à Bruxelles depuis septembre 2012. Le président tchèque Miloš Zeman a déjà signé la nomination de Jakub Landovský à son poste, qui devrait prendre ses fonctions à la fin de l'été. On termine par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Petr et Pavel. Remontée des températures après un vendredi plus conforme au normal de saison. Le soleil sera au rendez-vous et les températures moyennes maximales oscilleront aux alentours de 29 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme qu'aura le plaisir de vous présenter Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Mais oui, chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de la radio du futur, Radio Prague, en direct et en exclusivité depuis la capitale tchèque, où le soleil brille encore, mais où c'est pas vraiment la canicule, des températures agréables qui nous permettent de vous présenter un programme passionnant, avec d'abord un article et une prestation de Guillaume Narguet sur le système de santé et sur le programme du gouvernement tchèque appelé Medevac. Ce sera juste avant d'aller à Karlovy Vary pour le début du Festival international du film qui commence ce vendredi soir. Et puis, enfin, dans la rubrique touristique de Radio Prague, nous irons faire un tour dans le centre de Prague, au musée du café. Si le système de santé est confronté à un certain nombre de problèmes en raison du faible niveau des salaires et des départs à l'étranger du personnel hospitalier en République tchèque, eh bien cela n'empêche pas de nombreux médecins du pays, généralistes comme spécialistes, de participer avec succès à diverses missions à l'étranger dans le cadre du programme gouvernemental MEDEVAC. Et les équipements de santé produits par plusieurs sociétés tchèques s'exportent eux aussi très bien. Guillaume Narguet pour plus de détails.
Protože my máme to štěstí, že prostě žijeme v zemi, která je bezpečná.
Dans une vidéo de promotion, le ministère de l'Intérieur explique pourquoi le gouvernement tchèque finance MEDEVAC. Il s'agit d'un programme humanitaire qui apporte une aide médicale aux populations vivant dans des pays frappés par diverses crises, des catastrophes naturelles ou dans des régions isolées où l'accès aux soins spécialisés est compliqué. Ces soins sont toujours fournis gratuitement et sont destinés uniquement aux civils. Orthopédiste et traumatologiste Michal Burian travaille à l'hôpital Nabulovce à Prague. Il a participé à plusieurs missions du programme MEDEVAC en Jordanie.
C'est un pays qui se caractérise par une importante pénurie d'orthopédistes, alors qu'il naissent beaucoup d'enfants avec des malformations qui ne font malheureusement généralement pas l'objet d'un suivi médical durant leur croissance, alors que cela devrait être le cas depuis leur petite enfance. La conséquence est que leurs malformations s'aggravent avec l'âge. Ce type de diagnostic est de plus en plus fréquent. Il nécessite des soins spécialisés, mais comme ceci n'existe pas, des spécialistes étrangers se rendent en Jordanie. Les orthopédistes tchèques font partie de ceux qui ont le savoir-faire pour soigner ces enfants.
Toutefois, comme l'explique encore Michal Burian, cette aide est à double sens. Dans son esprit, les soins qu'il accorde aux patients étrangers dans le besoin s'inscrivent dans le cadre d'un échange réciproque, un donnant-donnant en quelque sorte, dans un pays de culture différente.
Il ne s'agit bien entendu pas seulement d'aider les Jordaniens ou un pays en particulier. Ces expériences à l'étranger nous enrichissent, nous aussi, le personnel médical. Personnellement, je suis confronté en Jordanie à des diagnostics et à des malformations que l'on ne voit plus aujourd'hui en République tchèque que dans les livres et qui ne relèvent plus que de la théorie. Soigner ces enfants est donc un défi pour nous et certains cas graves, la façon qu'ont beaucoup de gens là-bas de ne pas se plaindre et de vous être reconnaissant, nous aident à relativiser un certain nombre de choses.
Každý takovýhle případ je pro nás také ponaučením a takovou satisfakcí.
Comme Michal Burian, Petra Novakova, employée au centre hospitalier universitaire de Prague, s'est elle aussi rendue en Jordanie à diverses reprises. Physiothérapeute de formation, elle a aussi fait l'expérience d'une autre mission et avec celle-ci d'un autre monde, en Ukraine, toujours dans le cadre du programme MEDEVAC.
Ce sont des projets très différents l'un de l'autre. Nous allons en Ukraine avec une équipe composée de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes et de médecins avec pour mission de former nos collègues ukrainiens et de participer au développement du département de rééducation. Actuellement, cela se passe dans un hôpital public de Kiev. Nous nous efforçons aussi d'encourager les formations complémentaires du personnel ukrainien directement sur place.
Et pour assurer des soins de qualité, des équipements de qualité sont également nécessaires. C'est là un domaine d'activité qui possède une longue tradition en République tchèque. Présidente directrice générale de l'Association des fabricants et des fournisseurs de matériel médical, Jana Vekokalova explique pourquoi l'essentiel de la production tchèque est destiné aux marchés étrangers.
Le marché tchèque est relativement petit et pour un pays de la taille de la République tchèque, il existe beaucoup de petites et moyennes sociétés spécialisées dans la fabrication de matériel médical. Rien que notre association compte plus de 100 membres. Les entreprises sont donc contraintes de se tourner vers l'étranger et de percer sur de nouveaux marchés. Au total, toutes ces entreprises exportent plus de la moitié de leur production. Certaines avancent même de 80 à 90% et c'est là une tendance qui s'accentue.
Donc, ce trend est continuant.
De manière plus concrète, toujours selon Yana Vikokalova, ce sont d'abord les produits innovants, des produits qui, malgré la féroce concurrence mondiale, s'exportent le mieux, comme par exemple les implants articulaires et les attelles croissantes développées par la société Beznoska, ou encore une endoprothèse œsophagienne unique en son genre de l'entreprise Ela Hradec Králové.
Cérémonie d'ouverture ce vendredi du Festival international de Karlovy Vary, l'événement majeur pour le cinéma organisé tous les ans dans la station thermale de Bohême de l'Ouest, un tapis rouge, des stars et des paillettes, des fêtes aussi, mais surtout des dizaines de films et des centaines de projections accessibles à un public toujours aussi enthousiaste pour cette 54e édition. La grande vedette américaine invitée pour l'ouverture est l'actrice Julianne Moore. Et pour le directeur artistique du festival, il s'agit là d'une très belle prise. On écoute Karel Orr.
C'est énorme et il faut savoir que cela fait déjà 4 ou 5 ans que nous travaillons pour faire venir Julianne. C'est évidemment une actrice qui travaille beaucoup et cela n'a pas été possible de la faire venir avant, même si elle et sa famille ont toujours voulu venir au festival. Nous sommes comblés qu'elle puisse être là maintenant. C'est une grande star et une actrice incroyable.
It is possible now, and you know she's a huge star, a very intelligent actress, amazing actress.
Près de 200 films sont au programme du festival, avec plusieurs sections compétitives et de nombreuses œuvres hors compétition. Avec une section particulière pour cette édition 2019, 30 ans après la Révolution de velours et la chute du communisme. Karel Orr.
C'est notre manière un peu spéciale de rappeler au monde que cela fait 30 ans qu'on s'est débarrassé des communistes. Pas entièrement, mais au moins formellement. Nous avons donc décidé d'inclure dans notre programmation 7 films tournés dans les 3 premières années après la chute du communisme, juste pour faire revivre l'atmosphère particulière de ces années-là, avec la liberté soudaine et son influence sur la cinématographie de l'époque. Ce sont des films de jeunes réalisateurs qui débutaient à l'époque ou de réalisateurs déjà confirmés comme Jan Niemetz ou Viera Chytilová. Les réalisateurs ne craignaient pas à l'époque de pousser très loin la caricature de certains personnages, de certains aspects de la société, de la politique, etc. Ils étaient en fait assez courageux et c'est un peu notre message à la jeune génération de cinéastes. N'ayez pas peur, allez-y à fond, soyez punk, soyez rock'n'roll et faites-le. Parce que c'est ce que ces films ont apporté, beaucoup de gens seront contents de revoir ces films comme nous qui avions une 15aine d'années à l'époque. Mais entre-temps, nous avons toute une génération de festivaliers qui n'étaient pas nés à la sortie de ces films. Ils vont peut-être les voir pour la première fois et je suis curieux de voir leur réaction.
Le public du Festival de Karlovy Vary est en effet de manière générale un public jeune et très enthousiaste. Le quotidien britannique The Guardian classe cette année le rendez-vous tchèque parmi les 6 festivals de cinéma à visiter, avec une mention spéciale pour le caractère accessible de Karlovy Vary, même pour les budgets les plus réduits. The Guardian décrit une atmosphère ressemblant plus au festival de Glastonbury qu'au festival de Cannes. Pour ce qui est du budget total de ce festival, eh bien son président parle d'un montant avoisinant les 6 millions d'euros, dont environ le tiers est financé par l'État. Ça dépend aussi des billets d'avion à acheter et d'où viennent les invités, indique Jiří Bartoška, qui précise en souriant, toujours recommandé à son équipe de les faire venir de Londres ou de Paris, ses invités, parce que c'est moins cher. Fin de citation. Pour plus de détails sur le programme du festival, l'adresse est sur le site de Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Originaire d'Éthiopie et introduit en Europe aux alentours de l'année 1600, le café est arrivé en pays tchèque environ 100 ans plus tard. Son histoire, eh bien, elle est à découvrir au musée du café alchimiste, situé dans le quartier pragois de Holešovice, à quelques pas des parcs de Letna et de Stromovka. C'est Magdalena Hrozinková qui a visité ce musée du café en compagnie de Kateřina Ebelová, sa propriétaire et directrice.
« Takže v té pražičce uprostřed byl válec, do kterého se dala zelená káva.
Nous voilà devant un ancien torréfacteur. Il a un tambour à l'intérieur dans lequel on mettait du café vert. Ensuite, on le chauffait, souvent avec du charbon de bois. L'ouvrier devait ensuite faire tourner l'appareil pendant une vingtaine de minutes pour que les grains soient toujours en mouvement et torréfiés de façon uniforme. En haut, il y a une petite cheminée pour libérer la chaleur et l'odeur. Curieusement, on ne sent pas l'odeur du café au cours de la torréfaction, car on fait brûler la peau des grains. Ce n'est qu'à la fin du processus que le café prend son arôme typique.
Alchimista est un petit musée privé consacré à l'histoire du café en bois Moravie, situé au numéro 7 de la rue Jan Zajíc dans le 7e arrondissement de Prague. Il est associé à une galerie d'art nommée Skarabeus. La propriétaire du musée, Kateřina Ebelová, exploite aussi un joli café, une cukrárna, comme on dit en tchèque, à proximité immédiate du musée. Celui-ci présente de nombreux accessoires, anciens et plus récents, liés à la consommation du café, ainsi que des photos qui évoque l'univers des célèbres cafés pragois tels que le Louvre, le Slavia ou le café Union, très fréquentés au 19e et 20e siècle par des artistes, écrivains et poètes. Le premier café pragois a vu le jour en 1714, soit une quarantaine d'années après l'ouverture d'un premier café à Paris. Kateřina Ebelová.
Il est documenté dans les archives que le premier vendeur de café à Prague s'appelait Deodatus. C'était un Arménien qui est arrivé à Prague d'Istanbul. Il a ouvert son commerce à la maison au Serpent, située rue Karlova, au cœur de la vieille ville. Il préparait du café dans son appartement situé à l'étage et le proposait ensuite aux passants dans la rue. Plus tard, il a ouvert un café au pied de la tour situé près du pont Charles. Mais avant cela, un café avait été ouvert à Brno en Moravie.
Ale jinak výzkumy dokládají, že dříve byla kavárna v Brně. Kávu si osladím o trochu víc, svý benžon naladím a jinak nic. Oslavím sám vánoční svátky a na jaře si vrázky spočítám.
À l'époque, le café était vendu en pharmacie, torréfié, moulu et emballé dans de belles boîtes qui font aujourd'hui rêver les collectionneurs d'objets anciens. Leur unique défaut était qu'elles n'étaient pas étanches et le café perdait son parfum. Rare et coûteux, notamment pendant les périodes de guerre, le café a souvent été remplacé en pays tchèque par des boissons à base végétale, comme nous le raconte Kateřina Ebelová.
C'est quelque chose d'assez typique pour notre pays. Les Tchèques ont toujours beaucoup consommé des boissons à base de chicorée ou de seigle torréfié. Ils préparaient aussi du café à base de fruits, un café aux figues par exemple, qui était très populaire. On apportait des figues de Croatie et d'Italie, on les torréfiait dans une usine à Collines et on les vendait sous forme de petits cubes pressés. Cette boisson n'existe plus sur le marché, mais à l'époque de la Première République tchécoslovaque, elle était couramment consommée. Nous le savons grâce à des boîtes à café qui se sont conservées jusqu'à nos jours.
Dos na kávu, především z období první republiky, byla velmi obvyklá a častá.
Même si la consommation du café progresse constamment dans le pays, les Tchèques ne se classent pas parmi les plus gros buveurs de café en Europe. Ils n'en consomment qu'environ 2 kilos par personne et par an, soit une tasse et demie par jour en moyenne, comparé par exemple à 12 kilos en Finlande. Kateřina Ebelová explique comment ont changé les habitudes et les préférences des Tchèques au cours des dernières décennies.
Z doby před revolucí, kdy Češi většinou pili...
Avant la révolution de velours, les Tchèques consommaient uniquement ce qu'ils appellent le café turc, turek en tchèque, c'est-à-dire du café non filtré. Ce que l'on pouvait acheter dans les magasins, c'était une sorte de robusta de mauvaise qualité. Peu à peu, on s'est habitué au café instantané qui était très à la mode ici à une certaine époque. Aujourd'hui, les Tchèques, eux aussi, savent préparer et apprécier un café de qualité. C'est toujours une question de mode, ce qui est le plus consommé. Mais actuellement, c'est du café arabica avec des notes fruitées et florales. C'est un café en torréfaction claire, mais personnellement, j'aime le goût plus traditionnel du café dont la couleur de torréfaction est foncée, il est moins acide.
Pour déguster un bon café fraîchement torréfié, ainsi que le meilleur de la pâtisserie tchèque, rendez-vous au café Alchemista et bien sûr dans le musée éponyme. D'autres musées du même genre se trouvent à Klenknice, en Moravie du Sud, ou encore à Pardubice, en Bohême de l'Est.
C'est donc avec cette visite du musée du café qui donne envie d'aller en boire une tasse que se termine le programme en français de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Vous pouvez à tout moment de la journée ou de la nuit rejoindre Radio Prague. D'abord sur son site internet www.radio.cz et aussi sur ses réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Alors d'ici là, prenez vos claviers, nous vous attendons pour toute question ou suggestion. Sinon, très bon week-end à toutes et à tous, à bientôt, ahoy. Thank you.